I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
T'es quelqu'un qui a la rage. T'es quelqu'un où il y a beaucoup de choses qui t'énervent.
Oui.
Et tu peux très rapidement t'énerver.
Oui.
Tu préfères avoir des perruques qui sont toujours impeccables, que tu n'as pas à coiffer toute ta vie, mais avoir de l'eau chaude qui n'est jamais assez chaude, ou avoir de l'eau chaude tout de suite, toute ta vie, mais devoir coiffer toutes tes perruques qui ne seront jamais bien coiffées?
Je déteste quand je transpire parce que c'est super compliqué. Je vais penser à la douche.
En fait, c'est-à-dire que le temps que tu gagnes à la douche où ton eau est à la bonne température, tu le perds à coiffer toutes tes perruques.
La queen car jean car jean.
I am the queen of drag.
Je pense que je vais rester là-dessus dans le sens où peut-être qu'un jour je ferai plus de drag, mais que je prendrai quand même des douches.
Eh ben, work alors. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours... D'ailleurs, vraiment, appelez-moi... Bon, et côté curiosité, non, ça ne s'arrange toujours pas. Je suis toujours aussi curieux. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, c'est un épisode délocalisé. Un épisode sur les routes, un épisode au plus proche des préoccupations des queens de vos régions. Bon, je ne suis pas Bernard de la Villardière non plus, quoique pas mal comme nom de drague bavarde de la Vilainière. Pardon chef, j'ai digressé. Aujourd'hui, nous sommes au pays des volcans, dans le centre de la France, où queen de caractère rime avec Saint-Nectaire. Nous sommes à Clermont-Ferrand, dans un lieu formidable qui s'appelle le Photomat, dans les coulisses de la préparation d'un artiste drague qui remue la scène queer locale. Bienvenue pour ta Quinterview, Judas Morningstar.
Bonjour à tous.
Judas, pour commencer, moi j'aimerais beaucoup m'adresser à Adrien, avant qu'on parle avec Judas Morningstar et qu'on parle de Judas Morningstar. La première question que je vais te poser, c'est quoi tes pronoms en drag et out of drag?
Alors moi mes pronoms c'est il et elle parce que je suis une personne non binaire, donc il et elle ça me va très bien.
Ok, donc que ce soit en drag ou out of drag.
C'est ça, en drag quand vous me voyez sur scène et out of drag quand je vais acheter ma baguette le matin dans les rues de Clermont.
Et tu vas acheter ta baguette le matin dans les rues Clermont ?
Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que je travaille dans un endroit où il y a du pain et que je le prends en sortant du travail.
Pas très bien. Adrien, donc là, moi, je suis face à Adrien qui va se transformer sous vos oreilles ébahies en Judas. Pour commencer, toi, t'es originaire de Clermont ?
Pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, je viens d'un petit coin reculé qui s'appelle la Savoie, du coup, le 73, dans l'est de la France. Je viens de Chambéry. Et je suis ici pour mes études depuis 7 ans maintenant.
Ok, et tu fais quoi comme étude?
Alors, je suis en master de stratégie digitale, en alternance.
Ok, et c'est drague la stratégie digitale?
Non, pas du tout. J'aimerais, mais non. Non, c'est pas fun. Enfin, c'est fun, mais c'est pas fun en même temps. Mais au moins, mon travail est intéressant puisque je fais mon alternance dans un magasin bio, ce qui est très cool parce que c'est éthique et parce que j'ai des réductions pour manger. Okay. Et ça, c'est bien.
Donc voilà, donc t'es pas originaire de Clermont, t'es originaire de Savoie. C'est quoi ton enfance avant de rencontrer les volcans d'Auvergne?
J'ai fait toute ma scolarité jusque la première. Puis après, j'ai rencontré un garçon qui était en terminale, qui a eu son bac et qui est parti pour la fac à Clermont. Et donc, j'ai fait ma dernière année de lycée à Clermont en habitant avec lui. Et après, j'ai continué mes études.
Ok. Et du coup, quand tu grandis, tu l'as toujours eu, cette fibre artistique?
Alors oui. En fait, j'ai beaucoup dessiné, beaucoup peint toute mon enfance. Vraiment, c'était assez drôle parce que ma petite sœur jouait au foot, allait dehors se battre et s'amuser. Et moi, j'ai resté vraiment coincé à la maison, dans ma chambre, où il n'y avait pas beaucoup de lumière parce que je n'avais pas le soleil. Et je peignais, je dessinais, je faisais de la poterie et des choses comme ça.
En grandissant, tu sens que l'art et que ton développement créatif est important ou que ça peut être une partie de ta vie ou c'est juste comme ça pour s'occuper?
À ce moment-là, oui, c'est plus... j'étais un ado, donc forcément, la vie n'était pas évidente tous les jours parce qu'on sait à quel point c'est compliqué pour les ados. Je n'avais pas prévu que ça deviendrait une partie aussi importante parce que je n'avais pas prévu grand-chose et je n'avais pas prévu de devenir une drag queen.
Non, ça faisait pas partie de ton plan de carrière.
Non, ça c'était vraiment pas dans le plan sur 5 ans. Mon jeune moi serait très surpris de me voir monter sur scène alors que j'étais très timide.
C'est vrai, t'étais quel genre de petit garçon?
Moi j'étais petit garçon mais qu'on voyait pas trop parce que j'étais pas le pitre en fait. Hein. Vraiment, j'étais pas celui qui faisait des blagues. J'étais vraiment celui qui était assis au fond de la classe, qui bavardait, qui dessinait beaucoup dans les cours, qui du coup j'étais puni parce que je dessinais et je n'écoutais pas. J'étais pas le bout en train qui allait se mettre au devant de la scène, qui allait rigoler avec les autres, qui allait être populaire quoi.
Ok. Et en arrivant à Clermont-Ferrand, en arrivant ici, est-ce que tu te sens déjà un peu plus libre?
Déjà oui, parce que j'étais à peu près 300 km de mes parents. Donc c'est vrai que ça a aidé dans le sens où je devais plus obligatoirement plaire à ce que mes parents voulaient, faire ce que mes parents voulaient, être la personne que mes parents voulaient. Donc c'est vrai que ça m'a donné un petit peu plus de liberté. Après, de là à dire que ça m'a aidé pour tout ce qui était queer, je ne peux pas le dire parce qu'à l'époque, je ne savais pas vraiment ce que c'était être queer. J'étais juste gay avec mon copain, on habitait dans notre appartement, on avait des plantes et voilà, enfin, c'était ça. Il n'y avait pas du tout de dynamique queer ou de dynamique militante ou de conscience aussi.
Être gay, c'est avoir des plantes?
Probablement. Okay. Je pense que oui, parce que tous les...
Non, parce que tu l'as vraiment précisé, donc je me dis, être gay, c'est être avec son copain, avoir des plantes. Mais donc, parce du que coup, c'était... j'imagine que des couples gays sans plantes doivent peut-être se sentir pas inclus par ce podcast.
C'est pas grave. Écoute, il y a toujours des gens rejetés, c'est la vie. Hein. Mais non, c'est vrai que c'était une dynamique relativement importante, nos plantes, parce qu'on en avait beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les plantes. Donc, c'est pour ça que je l'ai souligné.
Donc, quand tu arrives à Clermont, globalement, Clermont, en termes de sortie LGBT, en termes de vie diurne et nocturne, il se passait des choses?
Disons que quand je suis arrivé à Clermont, du coup, il y a 7 ans, un peu plus peut-être, il n'y avait pas grand-chose à Clermont. Enfin, il y avait une boîte qui était... il y avait deux boîtes qui étaient queer, entre guillemets, enfin, qui étaient queer-friendly. Il y avait quelques associations qui n'existent plus aujourd'hui, mais il n'y avait pas... Enfin, Clermont, ce n'était pas la ville queer que c'est aujourd'hui. Je sortais dans des bars ou dans des pubs irlandais. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de pubs irlandais parce qu'il y en a énormément à Clermont. Et heureusement, parce que c'était un peu des endroits où je traînais, où j'ai rencontré du coup d'autres personnes queer avec qui j'ai pu me construire. Et c'est aujourd'hui encore des lieux où on peut se permettre d'aller en drague, où on peut faire des événements drague.
Et ça, c'est important.
Ah, mais c'est hyper important. Enfin, je pense qu'une grande victoire dans ma vie, c'est de pouvoir conjuguer mon premier amour des bars clermontois, du coup, les pubs irlandais, et le drague, et de faire des événements drague dans les pubs irlandais, là où on n'est pas vraiment attendu.
Eh bien, félicitations.
Merci.
Avant de passer à la conversation avec Judas et à savoir qui est Judas, j'ai toujours mon assistante éditoriale, mon assistante de l'extrême qui m'aide à préparer cette émission. Elle s'appelle Mia, elle est accompagnée de ses parents, elle est en quête sur les réseaux sociaux de mes invités. Bon, elle est en vacances, mais elle a quand même des questions. Bonjour Mia.
Bonjour, je m'appelle Mia. Moi j'ai 4 ans tout court.
Eh ben, Mia, toujours 4 ans tout court, ça passe pas si vite que ça, le temps.
Coucou, Mia.
Et donc, Mia, quelle est ta première question pour Judas?
C'est quoi une drag queen.
C'est quoi une drag queen, Judas ?
Eh ben, c'est une question hyper intéressante, Mia. Question qui a beaucoup de réponses et qui n'a pas vraiment de réponses en même temps aussi. Donc, je vais te donner, je pense, ma version de ce qu'est une drag queen.
C'est ce que veut savoir Mia, c'est ta version de ce qu'est une drag queen.
Exactement, en fait. Moi, je suis une drag queen et pour moi, une drag queen, c'est un artiste qui va performer le genre, du coup, qui va jouer avec les traits masculins, féminins ou tout ce qu'il y a en dehors de ce prisme. Pour moi, une drag queen, c'est un artiste qui va donner, qui va faire ressentir des choses à son public à travers la rage, pour moi, par exemple, puisque c'est un sentiment que j'utilise énormément, et qui va proposer aux gens qui vont venir l'aller voir en spectacle de partir dans un voyage hyper fun, hyper intéressant, hyper triste aussi parfois. En plus de cette créature du spectacle, cette créature de la nuit, c'est aussi un artiste qui est en règle générale très militant, qui va essayer de faire bouger les choses, qui va essayer de secouer l'environnement, qui va essayer de déranger les autres pour pouvoir obtenir des avancées ou pour pouvoir proposer et créer des lieux safe pour les autres.
Ça a beaucoup de missions, du coup, un artiste drag, j'ai l'impression.
Ah mais tout à fait. Hein. Soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de drag qui dorment bien parce qu'on est tous très, très occupés parce que, justement, le but du drag, à mon sens, outre le fait de faire des spectacles pour faire du bien aux autres, pour leur créer un espace safe, le but du jeu, c'est de bouger les choses et d'aider sa communauté. Le drag, pour moi, il ne s'arrête pas, et c'est très personnel ce que je veux dire, mais pour moi, le drag, il ne s'arrête pas une fois que je me suis démaquillé. Pour moi, le drag, il est là tous les jours. Pour moi, le drag, ça représente mon adelphité. L'adelphité, c'est le partage, la connexion qu'on a avec la communauté queer, qu'on a avec ses frères et sœurs et les personnes du milieu dans la communauté queer, et qui fait qu'on se doit de s'aider entre nous. Et pour moi, c'est ça, réellement, l'une des définitions du drag, et qui fait que c'est un mode de vie. C'est mon mode de vie.
Eh bien, je pense que Mia aura compris tout ce que tu essayais de dire. Mia, est-ce que tu as une nouvelle question ?
Pourquoi tu mets des fausses perruques, des faux cheveux, alors que tu as des cheveux normaux ?
Certes, j'ai été gâtée par la nature avec mes super cheveux blonds bouclés, mais que malheureusement, je n'aime pas les laisser pousser trop long, que ça prend du temps, qu'il y a une période assez longue entre les cheveux courbeaux et les cheveux longs beaux, où en fait c'est moche. Et du coup, c'est assez compliqué de les laisser pousser. Et aussi, j'aime beaucoup mettre des faux cheveux parce que ça va avec la tenue. Ça me permet de changer de couleur de cheveux aussi. Parce que si je devais me teindre les cheveux à chaque fois,
ça serait plus compliqué.
Tout à fait. Et non. C'est surtout que ça fait partie du personnage et ça permet d'avoir des coiffures assez rocambolesques, assez volumineuses qui rentrent un peu dans l'imaginaire autour de Judas.
Ok, très bien. Une nouvelle question peut-être, Mia, pour Judas.
C'est quoi ton métier ?
Alors, spoiler alerte, je ne vis pas du drag. Malheureusement, je n'ai pas cette chance pour le moment. Et donc, en dehors du drag, en dehors de Judas, Adrien travaille dans un magasin bio où je m'occupe de faire la stratégie digitale. Donc, c'est-à-dire que je vais, en mots plutôt simples, travailler pour faire en sorte que mon magasin soit connu. Que les clients viennent et surtout que les clients reviennent. Donc, il y a tout le moment où je vais aller chercher mes clients en leur disant que mon magasin est trop, trop bien.
Et j'imagine, parce que ton magasin, il y a une drag queen dedans. Forcément, il est trop, trop bien.
C'est... Alors, oui, tout à fait. C'est ce que je dirais à ma patronne quand je demanderai une augmentation.
Moi, j'ai peut-être prolongé un petit peu la question de Mia. T'aimerais que ton métier soit quoi ?
J'aimerais devenir une drag queen professionnelle, ce qui est presque le cas parce que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup.
J'ai vu qu'on pouvait te louer tes services sur mariage.net, par exemple.
Mais...
bah non, mais...
mais... Alors, du coup, c'est très bien.
C'est vrai ?
Mais oui ! Mais attends, écoute, business is business. On peut louer mes services sur mariage.net. Moyennant une certaine rémunération, je peux animer vos soirées.
Quand je te dis ça, c'est à la fois je plaisante et en même temps je ne plaisante pas. C'est-à-dire que les drag queens ont un prix, que les drag queens doivent être payés, que les artistes drag, de manière générale, sont des artistes. Et donc, pour pouvoir prolonger leur art et être de plus en plus reconnus et pour avoir des perruques de mieux en mieux, des tenues de mieux en mieux, il faut pouvoir les acheter. Et donc, on n'est pas gratuiste.
Ah non, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est que, en fait, moi, ce que je fais, j'ai une façon de fonctionner qui est, je pense, semblable à pas mal de drag. C'est que je vais aller à la recherche des très, très gros contrats où, du coup, je vais être très bien payé. Et pas nécessairement pour l'argent. Oui, c'est vrai que ça aide d'être très bien payé sur ces gros contrats, mais c'est que surtout, être bien payé sur ces gros contrats va me permettre de pouvoir en faire des tout petits où je ne suis pas du tout payé, mais où je suis très proche de la communauté queer. Du coup, ça me permet de pouvoir me déplacer ailleurs, de faire ça gratuitement ou moyennant le prix du trajet, justement parce que j'ai ces gros contrats derrière. Et c'est vrai que oui, non, c'est une chose hyper importante de se dire que si vous voulez des drag queens ou des drag kings ou drag queer ou des créations drag, peu importe quel artiste drag, il faut se dire qu'il y a un budget, qu'il faut les payer vraiment et que non, un plateau repas n'est pas un salaire. Et généralement, ça reflète le trajet, l'aller et le retour, l'hôtel si jamais il y a nulle part où dormir et le repas.
Les drag queens mangent.
Et mais les drag queens mangent.
Ça mange, ça boit, ça se fait payer.
Tout à fait, comme des travailleurs normaux en fait.
Ouais, j'ai l'impression.
C'est hyper important et ça c'est un conseil que je donne beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Que non, un peu de visibilité dans ta story ou même si tu as 50 000 abonnés, ça n'est pas un salaire. Et que c'est très très important de payer ces artistes drag avec de l'argent, de la moula, du cash, tout ça.
Bon, eh bien Mia nous a posé des questions très intéressantes et très pertinentes aujourd'hui. Donc merci beaucoup Mia.
Au revoir.
Bye bye Mia.
Gros bisous.
Gros bisous Mia. Et merci beaucoup donc à Mia et à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Adrien, je te propose qu'on passe à Judas. Donc là ça y est, on passe du blanc au violet sur les arêtes du nez. Si je pouvais faire une description un peu comme si on était en train de regarder un match de foot à la radio. Mais sauf que là, voilà, on est sur des arêtes du nez violet. On est clairement sur des arêtes du nez violet ou violette. Donc, comme tu es en train de te transformer en Judas, déjà, la première question, c'est comment tu as découvert l'art du drag?
Déjà, j'ai de la chance, c'est que ma mère est très, très ouverte d'esprit et que fatalement, des drag queens ou des artistes drag, j'en ai vu toute ma vie à travers la télévision, à travers des expositions, à travers des documentaires. Bon, enfin, j'ai toujours su à peu près ce qu'était une drag queen. Pas autant que maintenant, mais j'ai toujours su à peu près ce que c'était un artiste drag. Donc, j'ai cet avantage-là. Et ensuite, en fait, peu de temps après que j'ai emménagé à Clermont, j'ai eu la chance de rencontrer la seule drag à l'époque de Clermont-Ferrand, qui ne fait plus de drag à Clermont d'ailleurs, qui s'appelle Nymphéa Morningstar, qui, spoiler alerte pour la suite de l'histoire, est ma mère drag. On faisait des soirées, on buvait des verres ensemble, et je la voyais se maquiller, se préparer en drag et sortir en drag. Et je voyais tout le tumulte que ça créait autour d'elle en boîte de nuit. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était beau, c'était vraiment très beau, et c'est une ambiance différente qui m'a donné beaucoup envie de tenter l'expérience.
Tu parlais de ta mère drag. C'est quoi une mère drag?
Je pense que l'autre terme qu'on pourrait utiliser, c'est mentor.
Ok.
C'est un mentor, c'est quelqu'un qui va t'apprendre beaucoup de codes du drag, qui va te présenter d'autres drags, qui va t'apprendre l'histoire du drag, qui va t'apprendre comment est-ce qu'il faut évoluer dans la société drag, entre guillemets, et qui va vraiment te lancer. Une mère drag, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais ça aide pas mal.
C'est quelqu'un, c'est un peu comme une mère dans la vraie vie, comme un parent qui est censé t'amener vers le haut, te tirer vers le haut et t'apprendre et t'inculquer, t'apprendre les codes de la bonne société drag queenesque.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on appelle ça les mères. Après, il y a un côté derrière le terme mère ou père drag, il y a un côté historique. Pendant les années SIDA, par exemple, c'était les personnes qui t'accueillaient chez eux et qui prenaient soin de toi, qui te donnaient à manger. Généralement, c'était les aînés qui t'inculquaient beaucoup de choses par rapport à ta communauté, mais qui faisaient aussi beaucoup de prévention sexuelle, prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, et qui te donnaient de l'amour, mais surtout qui te donnaient à manger, qui te donnaient un toit, qui te permettaient de te laver, enfin de survivre, en fait. Et heureusement, parce que, par exemple, pendant un moment de ma vie, j'étais très très pauvre, je me suis retrouvé à la rue. Et en fait, du coup, cette drague nous a beaucoup, enfin moi, Lilith et Lénie, mon conjoint nous a beaucoup nourris, nous a donné à manger, a fait les courses pour nous, a toujours été là pour nous. Et c'est hyper important de... Enfin, aujourd'hui, je n'en serais pas là si elle n'avait pas été là. C'est sûr et certain. C'était un moment émotion.
Mais non, mais c'est important de le dire.
Ah oui, mais je la remercierai jamais assez, mais je lui dis de temps en temps... Quand on se shade de pas, c'est un peu la marque de fabrique des Morningstar, se shader.
C'est quoi le shade? Alors, le shad.
Le shad, l'ombre.
L'ombrage.
Alors en fait, le shade, c'est grosso modo des petits pics. Des petits pics que tu balances aux gens que tu aimes. C'est des micro-attaques mignonnes, parfois piquantes, enfin parfois très piquantes, mais qui viennent d'un endroit d'amour. Et c'est la façon qu'on a entre nous de montrer l'amour qu'on a pour les autres. C'est important de le faire avec les personnes que tu respectes et avec les personnes que tu aimes. Parce que par exemple, si tu fais avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est pas du shade, c'est de la méchanceté. J'ai demandé à Nymphéa de me maquiller le soir de mon anniversaire. Cette photo est classée secret défense puisque personne ne doit la voir. Parce que c'était...
Je pourrais la voir.
Tu demanderas à Lenny. C'est lui qui les a, les photos.
Merci beaucoup.
C'était vraiment génial. C'était vraiment génial. J'avais l'impression d'être la drag queen la plus bonne de Clermont. En effet, nous n'étions que deux. C'était pas compliqué. Et donc voilà. Et en fait, ça m'a pas mal plu. Et petit à petit, je me suis lancé dans l'aventure. Je me suis lancé vraiment dedans. Et il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid et je me suis retrouvé coincé chez moi pendant 2 ans.
Donc, c'est-à-dire qu'au moment où tu commences tes premiers pas autour du drag, etc., bim, un coup de coronavirus qui t'empêche dans ta progression.
Alors, oui, il y a eu un petit espace de quelques mois, mais oui, ouais. C'est ça.
Okay.
C'est ça, c'est qu'on avait commencé un peu... Oh mon Dieu, Eleni vient de ressortir cette photo.
Attends, je peux l'avoir plus près parce que t'es vraiment beaucoup trop loin, Eleni.
Mon amour, tu iras en enfer. Tu iras en enfer.
Ah ouais. Mais non, mais tu vois, au final, Mia nous disait tout à l'heure pourquoi tu mets des perruques alors que t'as des vrais cheveux. Là, clairement, t'as des vrais cheveux et ça marche. Non. On dirait une sorte de Lady Di sur le retour. Mais pas Lady Di, tu vois, c'est peut-être Lady Neuf.
Écoute, on arrête le podcast, on s'arrête, je me casse. Je me casse.
C'est peut-être un chouï moins, mais quand même, c'est quand même un 9 sur 10. Moi, je dis, c'est pas mal.
T'es gentil.
Après le pont, ouais, ça ressemble à ça. Franchement, après le pont, non, c'est horrible. Oui, parce que pour le rappel, nous sommes toujours dans les coulisses de la préparation d'un événement au Photomat. Donc, nous ne sommes pas seuls dans cette pièce. On entend des bruits de micro, des choses qui se posent, des gens au loin. Voilà, nous ne sommes pas seuls. Et donc, grâce au fait que nous ne soyons pas seuls, j'ai pu voir ce à quoi ressemblait Judas première fois que c'est mis en drague. Lady 9.
Lady, vraiment, tu vas dormir sur le canapé, c'est ça.
Ça te stoppe complètement dans ta créativité, dans ton envie de devenir drague, ou alors est-ce que tu mets ce temps à profit?
J'ai mis ce temps à profit parce que du coup, j'étais enfermé chez moi. Parce qu'en fait, je travaillais dans la restauration à l'époque et que je m'ennuyais beaucoup. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de maquillage plutôt artistique ou de créatures drague et à les poster sur Instagram. Et c'est à ce moment-là à peu près que ça m'a permis de commencer... vaguement à avoir une espèce de communauté sur les réseaux sociaux où j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, où j'ai commencé à être reconnu, à être apprécié. Et c'était super cool. C'est super cool. Puis le Covid est parti, entre guillemets, on s'entend. Et donc, le monde réel est revenu.
OK.
Et donc, j'ai dû retourner au travail et donc prendre un peu moins de temps pour le drag. D'autant plus que je bossais dans la restauration... à cette époque-là, donc il n'était pas envisageable à ce moment-là de faire des drag shows.
Comment a commencé ton processus de drag to be?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça, aujourd'hui, je vois un culte aux perruques, par exemple, vraiment. Mais
un culte aux perruques, c'est-à-dire que tu as un hôtel avec des perruques, si j'allume des bougies devant, fais attention, ça peut prendre
et
feu.
Et voilà, on a tous vu la vidéo de la drague qui prend feu parce qu'elle a mis un ventilateur sur sa perruque.
Alors, je ne l'ai pas vue, mais regardez-la.
Et en fait, non, c'est qu'au tout début de mon drag, je ne voulais pas entendre parler des perruques. Je ne voulais pas entendre parler des perruques, des fossiles, des liners, des gros, enfin, par exemple, des grosses hanches, des collants. J'étais vraiment dans ce côté très réfractaire.
Par flemme, par combat, par quoi?
Alors, par combat, non.
Par argent?
Par argent, peut-être, mais c'était surtout que j'avais un peu peur de me dire « si tu mets les perruques, ça va commencer à être un peu plus féminin. Du coup, est-ce que ça veut dire que je vais devenir une femme ?» Tu sais, il y avait vraiment cette histoire de non-connaissance de ce qui se passe vraiment et de toute la question autour du drag. À cette époque-là, je ne voulais pas du tout explorer le genre. Ça ne m'intéressait pas du tout. C'était pas pour moi.
Comment tu as trouvé ton nom, Judas Morningstar? Et est-ce que... ça a tout de suite été ton nom ou est-ce que tu en as exploré d'autres avant de valider et certifier celui-ci avec un cachet de cire?
J'ai trouvé Judas parce que je suis un petit peu débasique, que j'adore Lady Gaga et que Judas c'était pendant très longtemps ma chanson préférée de Lady Gaga. Du coup, je me suis dit, écoute, ça va bien à la vibe, c'est plutôt dark, c'est plutôt pas mal. Et moi, je voulais vraiment que mon drag soit très, très rock, très dark, très punk. Et donc, je trouvais que ça correspondait bien. Et ensuite, je cherchais un nom de drag qui était déjà qui était mémorable, où on n'allait pas galérer à se rappeler, et aussi un nom de drag qui représentait l'amour que j'ai pour les super méchants, pour les créatures, pour les personnes moches, pour les créatures moches, pour les méchants de l'histoire. C'est toujours mes personnages préférés. J'ai toujours énormément d'empathie pour ces personnages-là. Et donc, Et donc, Judas, c'était parfait, parce que Judas, c'est le plus grand méchant de l'histoire judéo-chrétienne. Donc déjà, c'est très mémorable. Et surtout, c'est un méchant incompris. C'est un méchant incompris et c'est un méchant très intéressant sur son plan de l'histoire.
D'accord. Donc, Judas, vraiment une évidence.
Alors, Judas, ça a été une évidence. Morningstar, pas du tout. Puisque je fais partie de la
house... Étoile du matin.
Tout à fait. J'allais le dire en espagnol, mais je ne sais pas le dire.
Estrella...
De la mañana.
De la mañana.
Ah oui, bah, tu vois, à nous deux, on peut le faire.
Judas Estrella de la mañana.
C'est Rodas. Rodas.
Alors, je reprends. Rodas des...
De la Estrella.
Non. Judas Estrella de la mañana.
Tout à fait. Claro que si. Morningstar, c'était pas une évidence. En fait, je suis partie de la House of Morningstar. Et en fait, au tout début, cette house ne s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait la House of Black. Et en fait, elle avait choisi ce nom-là. Et en fait, ça ne nous correspondait pas. Ça ne nous correspondait pas, ça ne vibait plus trop. Et en fait, on s'est dit, Morningstar, c'est très cool parce que Nymphéa, Lilith, ça fait un peu soit céleste, soit un peu biblique. Enfin, ça fait vraiment assez imposant. Et Morningstar, qui est censé être... le nom de Lucifer rendait très très bien. D'où Judas Morningstar.
Et l'importance d'avoir des collectifs, des houses, comme tu disais, pourquoi c'est important, pourquoi ça vit, à quoi ça sert?
Alors, je vais commencer par dire que c'est pas vital d'avoir un collectif, que je sais qu'il y a cette course de beaucoup de nouvelles dragues de vouloir un collectif, et c'est pas vital. Par contre, ce qui est très cool avec un collectif, c'est que déjà, tu fais pas du drag seul. Tu fais du drag avec tes amis, parce qu'avant tout, le drag dans un collectif, c'est faire du drag avec ses amis et pas avec des inconnus, sinon ça sert à rien.
Donc c'est organiser des événements ensemble,
c'est ça. C'est organiser des événements ensemble, c'est faire des shootings ensemble, mais c'est aussi juste boire un verre ensemble, rigoler ensemble, faire des posts ensemble, enfin, c'est vivre ensemble, c'est une vie de famille en fait. Okay. C'est une vie de famille où tu conçois ensemble, enfin, c'est la recherche artistique finalement avec tous les membres de ton collectif. Et donc c'est ça qui est incroyable avec cette idée de collectif. C'est aussi très bien pour le support émotionnel, parce que le drag ou même la vie de tous les jours pour une personne queer, c'est pas quelque chose d'évident tout le temps. Et donc les collectifs, ça peut pas mal aider pour pouvoir se reposer sur d'autres personnes.
Très bien. Donc là, on a déjà, on commence de savoir, de comprendre comment Judas se construit. Très bien. À un moment, Judas se retrouve pour sa première performance face à un public. Où est-ce que c'était? Quand est-ce que c'était? Avec qui c'était? Dans quelle tenue? Je veux tout savoir.
Dans quelle tenue? Ah, tu veux pas savoir la tenue parce que c'était un fiasco monumental. Alors, ma première perf, c'est assez cocasse parce que c'était bien après le Covid. C'était un petit peu après le Covid, c'est ça. Et en fait, j'avais déjà acquis une réputation sur les réseaux sociaux et j'étais déjà établi dans mon drag, entre guillemets, dans ma chambre. Et donc, j'étais appelé par un ami à moi qui est une drag de Lyon et qui était une drag de Grenoble à l'époque et qui m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu veux venir juger une compétition de drag? Moi, je suis en mode, oh, work, vas-y, pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Work, ça veut dire... Ça, attends, juste petit aparté, work, définition.
Bah, travail, entre guillemets. Mais non, mais c'est trop
en
bien.
En gros, c'est parti, c'est ouais, on y va.
C'est parti, on y va, ou trop bien, ou vas-y, d'accord, ou voilà.
Ok, allez, donc là, on y va. Travail, je te dis.
Yael m'appelle pour me dire, bah écoute, est-ce que tu veux juger une compétition de drag? Et moi, dans ma mégalomanie, je suis en mode, bah bien sûr, je suis tout à fait adapté à juger une compétition de lip-sync, alors je n'ai jamais lip-syncé de ma vie.
Oui, je suis complètement adapté à sortir de ma chambre pour venir juger une compétition de drag, y'a pas de souci.
Tout à fait, dans une autre ville, avec des drags que je n'ai jamais vus. Donc, la delusion, évidemment. Et donc, j'arrive sur le lieu et cette drague me dit, bah écoute, en fait, j'ai mal jugé. Il y a un jury de trop, du coup, bah tu vas pas être jury. Donc, soit tu fais rien, soit tu participes au concours.
Ah, donc, c'est-à-dire que tu apprends ça sur place.
Ah, mais voilà. Et okay. Je suis en, let's go.
Tu te dis work ou pas?
Non, je me dis pas work, là.
Non.
Là, je me dis pas work du tout, du
là,
tout.
Là, tu te dis, sum un peu les boules.
Et là, je me dis, putain, heureusement que t'es mon ami. Je me dis aussi, bon, à un moment, va peut-être falloir sauter le pas. Mon petit Judas, t'es bien mignon avec tes make-up dans ta chambre. Mais si tu veux que ça évolue et que ça augmente un petit peu, il va falloir faire autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas une scène normale, c'était devant un bar. Et donc le bar avait l'habitude de faire ce jeu concours qui s'appelle la Grenoble is Burning.
Grenoble is Burning, meilleur nom. Grenoble brûle.
Voilà.
Pour les non-anglophones.
Du coup, ça faisait écho à Paris is Burning, qui est un documentaire très très important que vous devez voir sur l'histoire queer, l'histoire drag, l'histoire du voguing, des ballrooms. Donc voilà, et je me retrouve face à 300 personnes qui m'entourent, parce que du coup, la scène, c'est un rond au milieu d'eux, assis à table, en train de me regarder, à être là avec une chanson que je n'ai pas répétée, en mode « Work, on va y aller !» Et donc, tu t'en doutes bien,
le petit... Bah, c'est incroyable.
Ah, on va dire ça, non. Le petit Judas a complètement, mais alors, royalement foiré sa performance. C'était un fiasco total. Je ne passe même pas à la deuxième étape du concours.
Mais pourquoi c'était fiasco? Non, mais vraiment, pourquoi c'était fiasco?
Alors, parce que je n'étais jamais monté sur scène avant, que j'ai jamais fait théâtre ou de choses comme ça, donc complètement perdu. J'étais absolument perdu de partout. Donc
t'avais peur? C'était flippant?
Ah, mais j'étais terrorisé. J'étais vraiment terrorisé, je ne savais pas où me mettre. Je n'avais pas du tout envie d'être là, mais je le faisais pour mon ami.
Et tu t'es amusé?
Pas de ouf amusé, mais bon, au moins je l'avais fait, c'était fait, j'étais vacciné. J'avais fait ma première perf.
Alors tu dis ça t'a vacciné, ça aurait plutôt vacciné à l'inverse, et te faire dire non, c'est pas du tout pour moi. T'as quand même senti qu'il y avait un truc, un petit truc en plus.
Bah, contre toute attente, oui. Et ce n'est pas quelque chose que j'aurais attendu. Je pense que ça a libéré quelque chose en moi. Ça a libéré quelque chose en moi de me dire « Bon bah attends, là tu l'as fait devant un public que tu connais pas, tu l'as fait dans une ville de gens que tu connais pas, tu l'as fait avec des drags que tu connais pas, c'était une compétition, tu l'as fait devant 300 personnes, c'était hyper prenant, qu'est-ce qui fait que maintenant je vais pas réussir à le faire devant 30 personnes, 40 personnes à Clermont ?» Parce que c'est ce qu'on pensait qu'on aurait à l'époque à Clermont, si jamais on le faisait. Et donc, c'est un peu, ouais, c'est ça, débloquer quelque chose en moi, ce qui fait que... un peu plus tard à Clermont, on a pu faire ce qu'on a fait maintenant.
Moi, j'avais une question. Là, bon, si on devait décrire Judas Morningstar physiquement, en termes de perruque, en termes de vêtements, en termes de couleurs, c'est...
Judas, c'est un clown. C'est un clown camp, sexy et rock. Donc en fait, grosso modo, ce que je suis...
Camp, ça veut dire absurde.
Absurde, voilà, ou grotesque. Venir me voir sur scène, par exemple, c'est soit passer un moment très fun, soit passer un moment très triste, soit avoir peur parce que je m'énerve sur scène. Et en fait, Judas ressemble à une espèce de boule de couleurs. Du coup, j'ai toujours beaucoup de couleurs sur mon visage. J'ai des très, très grosses lèvres, j'ai des très gros sourcils, un contouring, du coup, très marqué. Donc, un contouring, c'est quand on exagère les traits de son visage. Donc, moi, je les exagère beaucoup. J'ai toujours des très très grosses tenues qui sont faites par mon copain qui est costumier, des grandes perruques très colorées, soit blondes, soit rousses, parce que c'est les deux couleurs que j'aime beaucoup. Je peux en avoir d'autres couleurs, mais c'est les deux couleurs que j'aime beaucoup.
Tu parles de cette rage. C'est quoi cette rage? Pourquoi cette rage?
Pourquoi cette rage? Mais parce que Adrien a la rage dans la vie de tous les jours. Parce que il y a plein de choses qui me conviennent pas, qui me plaisent pas, qui m'agacent, que je trouve pas normal, que je trouve pas logique. On peut pas exprimer, je pense, enfin, c'est même sûr, on ne peut pas exprimer sa rage comme ça, de façon futile, dans la vie de tous les jours, en le disant tout haut. C'est pas possible, sinon on est exilé de la société. Et en fait, pour moi, le drag, c'est ça, c'est montrer la rage, montrer que je suis énervé, parce qu'il y a plein de trucs qui ont fait que ça allait pas dans ma vie. Et le seul moyen que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est de le dire sur scène devant 150 personnes qui applaudissent et qui sont contents.
Ok. Donc là, t'es en train de faire quoi, là, d'un point de vue maquillage? Petit point, étape make-up.
Alors, du coup, là, j'ai fini mon teint, j'ai fini mon contouring, j'ai fait mes sourcils. Et en fait, moi, ce que j'aime bien mettre sous mes sourcils, pour avoir encore ce côté un peu clown, grotesque, j'aime bien mettre du blanc très, très blanc, pour faire un contraste encore plus avec le fard à paupières que j'ai à avoir, parce que j'ai toujours du fard à paupières. Moi, je fais pas de maquillage nude. Je sais pas faire, ça me ressemble pas, je veux pas ressembler à une petite meuf, entre guillemets. Enfin, moi, je veux vraiment ressembler à un clown. Du coup, j'ai toujours des maquillages très, très gros, très, très forts. D'où, par exemple, la couleur violet, qui est ma couleur préférée, que j'utilise tout le temps. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un teint blanc avec un contouring violet. Et là, je mets du blanc sous mes sourcils pour pouvoir appliquer mon fard à paupières violet.
Et en deux mots, pourquoi cet objectif d'être... clown?
Eh bah, ben, je pense que déjà ça vient du fait que je pouvais pas l'être quand j'étais petit, parce que j'étais pas assez à l'aise avec moi d'être un clown. Et je trouve que, après c'est mes goûts à moi, mais je trouve qu'artistiquement parlant, une créature qui a beaucoup de couleurs sur elle, qui a un maquillage très exubérant, très très grand, très très fort, c'est hyper fun. Et ce qui est très bien, c'est que ça peut à la fois plaire aux adultes comme ça peut plaire aux enfants, parce qu'ils vont avoir peut-être cette impression que je suis une marionnette ou une espèce d'elfe ou de fée. Et j'aime beaucoup.
Dans un des précédents podcasts, j'ai parlé d'Aventure Morningstar. Est-ce qu'il y a un rapport entre Aventure Morningstar et Judas Morningstar ?
Oui, oui, bah bien sûr qu'il y a un rapport entre Aventure et moi. Donc Aventure Morningstar, comme dit Petra. Et j'ai adoré, merci Petra si tu écoutes. Aventure Morningstar, du coup, c'est une petite fille clermontoise qui est incroyable, qui est venue, qui vient à presque tous nos shows, et qui a décidé que du haut de ses 6 ans, elle serait une drag queen. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Enfin, moi, j'ai attendu 20 ans avant de me dire « Attends, est-ce que je vais faire du drag ?» Et elle a 6 ans. Elle a dit « Non, moi, je le ferai à 6 ans. Et quand je serai plus grande, je serai une drag queen. » Et elle veut faire la saison 12 de Drag Race France. Et elle va la gagner parce que c'est une morning star. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle est très, très gentille. Elle est très, très curieuse. Elle est très, très ouverte d'esprit. Enfin, elle a toujours des histoires très, 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 très fun à raconter. Elle adore remettre sa maîtresse en place quand elle dit des trucs pas ouf, okay, avec ses copines.
C'est vrai.
Mais oui, la dernière fois, sa mère me racontait que sa maîtresse avait dit que les garçons avaient un zizi et que les filles avaient une foufoune, entre guillemets. Et elle est en mode, bah non, c'est pas vrai, pas forcément. Okay. Et la maîtresse est en mode, bah si. Elle est en mode, bah non, il y a les personnes transgenres, et sa copine a rajouté, bah ouais, c'est LGBT. Et moi, je la trouve incroyable, cette gosse. Je la trouve vraiment incroyable. Donc vraiment, star.
Une star.
Ah mais une star, puis tout le monde l'adore à Clermont maintenant parce qu'elle a fait ses débuts sur scène avec nous. Et la petite performe bien, la petite fait des dips et tout, chose que moi je suis incapable de faire. Et elle est incroyable.
Ok. La première fois que tu t'es maquillée, il y avait 2 drag queens à Clermont. Maintenant, aujourd'hui, il y a combien de drag queens 3-4 ans plus tard à Clermont, ou d'artistes drag?
Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drag à Clermont. Il y a beaucoup. Je sais qu'on a organisé le Cid Action, qui est une initiative nationale pour récolter des fonds pour le Cid Action, qui est organisée par des dragues, où on va en drague dans la rue pour faire la maraude et du coup avec des tirelires demander de l'argent aux gens. Et que pour la première fois cette année, on l'a organisé à Clermont avec du coup ma sœur drag Lilith, et qu'on a dû compter le nombre d'artistes drag qu'il y avait à Clermont, potentiel qui pourrait participer. Et je crois qu'on s'est arrêté à 45. Donc en 4 ans, il y a 45 dragues à Clermont. Du coup, je trouve ça exceptionnel.
Est-ce que tu as participé d'une certaine manière à ça ? Est-ce qu'il y en avait plus ?
Bah...
Oui. Il y a des personnes qui répondent oui dans mon dos.
On est dans les loges avec d'autres dragues avec nous, du coup des dragues clermontoises qui sont incroyables. Coup Doline et Amanitae, si vous pouvez les suivre sur Instagram. Et en fait, moi je suis persuadé que quand une drague apparaît quelque part, on est comme les champignons. Et qu'on se reproduit. On se reproduit très très vite parce que... En fait, ce pouvoir de liberté qu'un artiste drag a sur scène donne envie, donne carrément envie. Et donc je pense que oui, le fait qu'avec les Morning Stars, particulièrement avec Lilith, on ait commencé à faire du drag, à sortir, à faire nos propres événements, nos propres soirées, je pense que ça a donné envie à d'autres drags. Et puis ce qu'on a fait plus tard, on a fait des ateliers drag pour leur apprendre à se maquiller. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, maintenant, notre place, elle est faite. Qu'on a nos événements réguliers, qu'on a notre communauté, qu'on a tous nos partenaires, et que c'est très important de savoir quand laisser sa place correctement. C'est une chose sur laquelle on est en train de travailler avec Lilith, c'est de laisser notre place. C'est pour ça que, par exemple, à tous nos événements, on fait des scènes ouvertes pour proposer aux tout nouveaux artistes clermontois qui viennent de se lancer pour pouvoir performer à un endroit safe où tu vas performer et où tu vas être rémunéré.
Et est-ce que c'est difficile de faire du drag en région et en Auvergne ? Parce que c'est vrai que voilà, on a l'impression que... Il y a une grosse scène drag à Paris et en Île-de-France. Est-ce que c'est difficile d'exercer le drag ailleurs ?
Alors oui, au tout début, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, par exemple, quand on sortait de club, on se faisait cracher dessus. On se faisait insulter. Quand on demandait au bar de faire des drag shows, ils nous rigolaient au nez en disant « On veut pas de travelo ici. On veut pas de travelo ici. Non, ça nous intéresse pas. Enfin, nos clients, ils veulent pas voir ça. On en a rien à foutre. » Et donc, ouais, au début, ça a été compliqué. Puis, petit à petit, on a su se faire notre nom. Et donc, maintenant, non, généralement, si on démarche un lieu, s'ils ont un créneau, ils ne cherchent pas à comprendre. Mais c'est l'avantage que nous, les Morning Stars, on a. Ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Ici, aujourd'hui, donc là, on est dans les coulisses du photomat, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire un mot sur ce lieu ? Est-ce que c'est un lieu dans lequel tu performes souvent ? Et qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Et pourquoi il te reçoit ? Et pourquoi il vous reçoit ?
Alors, le Photomat, c'est une grande salle à Clermont, qui est une salle indépendante. Et c'est une salle qui a comme postulat de ne pas vouloir se faire d'argent sur le dos des artistes. Donc, par exemple, la location de la salle est gratuite. Tu viens avec ton projet, ton concept, et tu fais ce que tu veux de ta soirée. Et en fait, c'est hyper important parce que du coup, ça autorise plein de drags à faire leurs événements de façon gratuitement, puisque les drags sont très souvent précaires. Et donc, c'est la force et l'avantage du photomat. Et moi, je me produis très, très souvent en photomat, hein, parce que tous les mois, j'ai mon show ici, qui s'appelle le Facey Show. Photomat, c'est aussi un centre de recherche où tout le monde va venir faire ses recherches artistiques, où tu vas pouvoir venir faire des shootings, où tu vas pouvoir faire des tournages et des événements comme ça. C'est un lieu qui est militant à travers les personnes qui viennent. Parce qu'en fait, le postulat du photomat, c'est d'être une espèce de coquille vide. Tu viens avec ton projet.
Et est-ce que ce lieu est ce qu'on appelle un safe place, c'est-à-dire un endroit où peu importe qui tu es, est-ce que c'est un lieu où on est censé se sentir bien, se sentir accueilli et être ici comme dans un refuge ?
Je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut dire que le photomat, c'est un lieu safe à Clermont, parce que déjà, on n'en a pas beaucoup. Puis le patron, Julien, qui est une personne incroyable, est énormément dans la compréhension, dans l'écoute, dans la déconstruction. C'est un homme 6-7, et il écoute beaucoup, il lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, de témoignages sur la communauté queer et sur toute autre communauté. Donc lui, il prend beaucoup plaisir à nous accueillir.
Ok. Et après, moi, si je veux témoigner de ma propre expérience ici, je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté un peu refuge. Venez comme vous êtes. On voit que les gens se sentent bien ici, qu'ils viennent comme ils sont, qu'ils viennent seuls ou à plusieurs. Il y a un côté, je pense, refuge et réconfortant. Et bravo pour ça.
Bah, bravo à Julien. Je pense que c'était le cas avant que nous, on arrive. Parce qu'il y a plein d'autres événements. Enfin, il y a des concerts de métal. Enfin, mais merci. Le photomat, c'est pas un lieu où tu te dis ah ok, c'est un lieu pour les queers. Ou ah ok, c'est un lieu pour les rappeurs. Ou ah ok, c'est un lieu pour les bourges. Le photomat, c'est un lieu pour tout le monde. Et ils sont très très doués là-dedans.
On arrive très bientôt à la fin de cette émission. Déjà, est-ce que tu as des recommandations ? Bon, déjà, je pense qu'on peut partir sur le fait qu'on recommande le photomat à Clermont-Ferrand. Ouais. Peu importe ce qui s'y passe, suive ses actualités. Photomat, ça s'écrit F-O-T-O-M-A-T.
C'est une très très bonne reco pour les personnes qui sont en vacances à Clermont ou qui emménagent à Clermont, qui veulent du spectacle ou qui veulent faire des événements, parce qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles personnes ou de nouveaux concepts. Ça, c'est hyper important à préciser. Et en roco, à Clermont, on a la chance d'avoir un costumier drag incroyable qui s'appelle Patati Patata et qui fait des costumes pour les drag queens et les drag queer et les drag locaux, mais qui fait aussi des costumes pour les drags ailleurs, qui en a fait pour des artistes aux États-Unis, qui en a fait pour des artistes drag qui passent à la télé en ce moment.
Alors, comment on le retrouve ?
Eh bien, écoutez, vous ouvrez votre petit téléphone sur lequel vous devez déjà écouter ce podcast.
Ouais.
Et vous cherchez Patati Patata, donc comme et Patati et Patata. Et vous tapez Brand à côté.
Okay.
Et
Patati Patata Brand. On retrouvera ça aussi en lien dans le podcast. Très bien. Et alors, c'est quoi son style ?
Alors, Lenny, il a un style à la base très, très rock, très dark, très vinyle, très pique, très cône, très corne. Donc c'est ce qui fait beaucoup, beaucoup, fatalement, parce que c'est beaucoup de choses que je porte moi et que les Clermontois portent. Mais il est aussi très, très fan des tenues monumentales, avec beaucoup de tissus, qui sont très princesses.
Tu es la muse de ton amoureux.
Oui, je pense que je suis son plus fidèle client aussi.
Et il t'a aidé dans la construction de ton drag ?
C'est une très, très bonne question, parce que c'est un truc que je dis beaucoup, c'est que Judas, c'est pas juste Adrien. Judas, enfin, Adrien, c'est le corps, c'est celui qui maquille. Mais Judas, en fait, c'est un rassemblement de compétences que mon copain a, et surtout de vision artistique, de recherche artistique que je vais avoir, que ma meilleure amie qui est photographe aussi va avoir. En fait, on travaille beaucoup ensemble sur l'esthétisme de Judas. Lenny a énormément collaboré et a contribué à la création de Judas. Et Judas, on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas Lenny.
Eh ben, merci, merci Lenny. Est-ce que tu as une dernière recommandation ?
Je pense que ce qui serait cool, c'est de suivre, si vous voulez voir du drag différent, si vous voulez voir tout ce qui représente le drag en France, il y a deux comptes Instagram très importants à suivre. Il y en a un qui s'appelle Drag France, et pas Drag Race France, mais Drag France, qui est un compte qui va rassembler la plupart des artistes drag en France, comprenant les drag queens, les drag queer, les club kids, les drag kings. Mais il y a aussi un autre compte Instagram qui est tout aussi important, parce que lui ne va se centrer que sur les drag kings, qui est la communauté un peu invisibilisée du drag français, et qui s'appelle Drag King France, et qui est très important à suivre parce que vous allez voir des artistes à qui on ne donne jamais la lumière.
Très bien. Eh bien, moi, je dis que très bientôt, dans la Queenterview, il y aura aussi des drag kings, il y aura aussi des drag queer, il y aura aussi toutes les personnes qui essayent de performer le genre ou pas, mais qui essayent de s'amuser de tous ces codes-là. Donc, très bonne recommandation. Judas, je suis désolé de te le dire, mais c'est la fin de cette émission.
Eh bien, écoute, je suis déçu, moi qui pensais que ça allait durer l'éternité.
Ouais, on va pas rester là toute la vie, quand même. Non. Parce que déjà, il fait quand même très chaud. Il fait très, très chaud là où on est. Voilà, il y a même une partie des drags qui est en train de se préparer, qui sont partis parce que leur maquillage ne réussit pas à fixer.
Voilà. C'est exactement ça. Je crois même qu'il y en a un qui allait se maquiller dans la salle de spectacle.
Dans un congélateur. Voilà, chez Picard. Non, merci beaucoup. Merci, Judas Morningstar. Est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu recommandes?
Là, j'ai passé un très très bon moment et je recommande ce podcast.
Formidable. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queenterview. En attendant le prochain, likez, abonnez-vous, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Queenterview.
Bye bye.
Salut Judas.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.